Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, c'est quoi notre problème avec la mort? Pourquoi avoir de gros revenus ne nous rend pas meilleurs avec l'argent? Bonne écoute.
C'est quoi notre problème avec la mort? Un texte de Dominique Tardif, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Le constat ressemble presque aujourd'hui à un lieu commun. Depuis qu'il a mis au rancard le catholicisme, le Québec aurait perdu tous ses repères face à la mort. Mais qu'en est-il vraiment? Avec l'aide de spécialistes de ce sujet délicat, La presse réfléchit au grand partir. La réflexion à l'origine de ce dossier s'amorce en septembre dernier lors d'une entrevue avec le docteur Éric Gagnon, urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, paru dans ses pages. Une entrevue ayant généré une grande quantité de courriels de la part de lecteurs et lectrices qui se désolaient à leur tour que leurs contemporains se comportent face au mot « mort » et à toutes les questions essentielles qu'il contient comme les élèves de Poudlard face au mot « Voldemort ». « On a totalement désappris à mourir », regrettait alors le médecin. « On est dans une logique de vie à tout prix. C'est un combat qu'on mène constamment à l'urgence. Les gens arrivent, ils sont vieux, et la fin de vie n'a pas été réfléchie. » Mais est-ce bien vrai, comme on le dit souvent, que nous vivons désormais dans le déni de la mort? La rupture entre le Québec et la religion catholique nous aurait-elle laissé sans repère face à ce qui nous attend tous au bout de la route? Je dis toujours que c'est le grand paradoxe du vivant. Psychologiquement, on n'est pas fait pour vivre la mort. On ne peut pas se représenter notre propre mort, même si, physiquement, « on est tous destinés à mourir », répond la professeure émérite à l'UQAM et pionnière de l'anthropologie de la mort, Luce Desauniers, selon qui il serait réducteur de ne décrire la transformation de notre rapport à la mort qu'à l'aune du recul de la foi. La mort ne se vivait pas que doucement avant la Révolution tranquille, souligne Madame Desauniers, qui parle de « romantisation rétroactive du passé ». Sans pour autant nier que cet aspect de notre histoire teinte notre relation au grand partir. La promesse d'un au-delà pouvait jadis avoir des vertus consolantes au moment du départ d'un proche ou à l'approche du sien. La mort a toujours été un obstacle pour les êtres humains parce qu'elle impose une limite à notre existence. Mais ce n'est qu'à partir du 18e et du 19e siècle qu'elle est devenue un problème. Au moment où la pensée scientifique a commencé à nous promettre de la contrôler, de la reculer, voire de l'abolir, selon Luce Desauniers, professeure émérite à l'UQAM et pionnière de l'anthropologie de la mort. Le chanteur et conteur Michel Faubert, dont le répertoire est peuplé de complaintes qui écartent le rideau des ombres, entend l'écho d'une sorte de rejet de la réalité dont les euphémismes employés pour désigner le trépas. C'est comme si le mot « mort » était proscrit et qu'il fallait obligatoirement utiliser le mot « décès », déplore-t-il. Je n'aime pas le mot « décès » parce qu'au sens premier, c'est la mort administrative. Dans le mot « mort », il y a le cosmos. Mais lorsqu'on dit « décédé », tout ce que je vois, c'est une liste de chiffres. La mort serait-elle donc taboue? Oui et non, tranche Luce Desauniers, en désignant d'abord les différents types de morts pour lesquels notre fascination ne se dément pas. La mort catastrophe des tragédies faisant l'actualité. La mort spectacle du cinéma, ainsi que la mort romantique et enjolivée. Vous savez, ceux qui partent en buvant du champagne dans des draps de satin avec des chandelles et des ballons. Mais entre ces deux pôles, il existe une autre mort. Une mort non pas banale, mais commune. La mort est taboue en tant que réflexion essentielle sur le parcours de nos vies, précise la chercheuse. Mais le problème de beaucoup de néo-curés qui veulent défoncer le tabou, c'est qu'ils banalisent la mort, la sursimplifient, lui enlèvent son caractère d'énigme, d'élément vital à approcher avec soin. La mort demeure un défi. Elle ne peut pas devenir notre amie, dit Luce Desaulniers. L'anthropologue évoque parmi les autres manifestations de notre relation tourmentée avec l'ultime au revoir la surconsommation, un symptôme de notre angoisse de la mort, dit-elle, ainsi que la fascination que suscite l'aide médicale à mourir, qui ne concerne qu'une minorité de gens, mais qui procure une impression de contrôle sur la date et les circonstances de nos adieux. Elle voit aussi, dans les vives manifestations d'épanchement qui accompagnent sur les réseaux sociaux la mort de chaque musicien ou acteur vedette, même à un âge avancé, la preuve que quelque chose d'inhibé cherche à se déverser. L'hypothèse que j'ai depuis la mort de la princesse Diana, confie-t-elle, c'est que si ces morts occupent autant de place, c'est parce qu'elles nous permettent d'éponger des non-dits, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont contribué à la construction de notre identité. Comme on ne peut pas concevoir notre propre mort, on a de la difficulté à concevoir la leur parce que c'est comme si une partie de nous s'en allait avec eux. Vous écoutez « C'est quoi notre problème avec la mort ?» un texte de Dominique Tardif, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Resocialiser la mort. Stéphane Crête s'en étonne chaque fois qu'il célèbre une cérémonie de deuil. Les personnes éplorées devant qui ils se trouvent ont besoin de se faire rappeler qu'elles peuvent laisser leurs larmes couler sans crainte d'être jugées ou de déranger. On me le souligne souvent après. Une chance que tu nous as dit qu'on avait le droit de pleurer, j'allais m'excuser. Comment ça se fait que les gens ravalent leurs larmes à ce point-là, même dans des funérailles? Se demande le comédien et ritualiste. Pour la psychologue Joanne de Montigny, qui a œuvré pendant une trentaine d'années en soins palliatifs au Centre universitaire de santé McGill et qui accompagne aujourd'hui des personnes endeuillées en pratique privée, l'expression du désarroi que provoque la perte ne trouverait que trop peu de soupapes. Tout, partout, va très vite, y compris la mort, si bien qu'on valorise l'évitement. Les gens ont de la difficulté à écouter une personne en deuil se lamenter, dire qu'elle ne croit pas être capable de vivre seule, surtout quand c'est une mort annoncée qu'on devrait obligatoirement vivre de façon sereine, pense-t-on, selon Joanne de Montigny. Sans idéaliser le passé, la psychologue se désole que soit révolue l'époque où vous pouviez espérer que votre voisine, au lendemain de la mort d'un être aimé, dépose une soupe devant chez vous. Un exemple parmi tant d'autres de gestes désuets, à l'heure où le deuil est une croix que nous portons tout seuls. Sortir de l'intime. Il faut resocialiser la mort, écrit Stéphane Crête dans son livre « Marquer le temps », édition Le Jour, en empruntant la jolie formule de l'autrice française Yuki Vatier. Resocialiser la mort, permettre à la douleur du deuil de se dire hors de la stricte sphère de l'intime, si vous préférez. La mort, c'est un sujet qui rend inconfortable, comme si en parler allait la faire venir sur le pas de notre porte, rigole Stéphane Crête. Mais peut-être que tu es en deuil présentement, peut-être que je le suis, et on ne le sait pas. La société ne nous offre plus de structure pour exprimer ça. Le ritualiste salue au passage l'initiative de la coopérative funéraire du Grand Montréal qui, au tout début de la pandémie, a créé une affiche « Ici, nous sommes en deuil » à installer à la porte de sa résidence afin de signaler aux visiteurs que cette maisonnée traverse de grands chagrins. Resocialiser la mort pourrait aussi signifier d'aménager un espace pour nos morts. On est la première culture qui met les morts à la porte, fait valoir Luce Desaunier, professeure émérite à l'UQAM et pionnière de l'anthropologie de la mort. Les morts n'existent plus comme collectif, et c'est quelque chose qu'on a perdu avec les pratiques religieuses. Toutes les religions font une place dans un ailleurs à toute cette gang-là qui se retrouve ensemble. Et les cimetières? Ils peuvent effectivement être des lieux de regroupement collectif qui nous font réfléchir à la mort, explique l'anthropologue, mais encore faut-il les visiter et non seulement y faire son jogging. Mort solidaire. En 2018, Fouad Sadivani fondait le défunt Salon de la mort, avec au cœur un désir de normaliser les conversations autour de ce sujet sensible. On passe notre vie à aimer quelqu'un et à la job, on te donne 2-3 jours pour t'en remettre, s'exclame-t-elle complètement ahurie. À 24 ans, au moment d'organiser les obsèques de sa grand-mère adoptive, la Québécoise d'origine laotienne s'est laissée obnubiler par les beaux mots d'un vendeur. Je me disais, elle m'a tout donné, elle les mérite, l'urne à 5 000 $ et le cercueil à 15 000 $. J'étais complètement abandonné à moi-même alors qu'au Laos, une aînée m'aurait dit « Viens, ma chérie, on va t'accompagner. » Son souhait, qu'on passe d'une mort moins solitaire à une mort plus solidaire, dit celle qui a fondé le service Le Dernier Chapitre et qui, à l'instar des planificatrices de mariage, accompagne des endeuillés dans les méandres du marché funéraire. Remettre entièrement à ses proches le soin d'élaborer pour nous nos funérailles n'est pas un cadeau à leur offrir, insiste Joanne de Montigny. Beaucoup de gens disent « Tu feras ce que tu voudras », mais si on prenait la responsabilité de notre mort comme on prend la responsabilité de notre vie, on demanderait à l'autre « Qu'est-ce qui t'aiderait, toi, à faciliter ton deuil ?» Fouetter le vouloir vivre. Stéphane Crête croit bien sûr aux vertus apaisantes du rituel, mais met en garde contre la confusion que peut créer ce malheureux syncrétisme à travers lequel le Québec se donne parfois la permission de piger dans toutes les croyances et traditions comme dans un buffet. Quand on reboote nos anciennes croyances catholiques avec nos nouvelles explorations ésotériques, avec les voyages astraux, les fantômes et la réincarnation, ça n'aide pas nécessairement à comprendre ce qu'on vit, dit Stéphane Crête, comédien et ritualiste. Luce Desaunier note pour sa part que la mort est souvent évacuée des rites funéraires, pour céder sa place à une forme d'hommage, semblable à celui que vous recevriez pour votre 65e ou 75e anniversaire. Mais se crisper sur le souvenir personnel, c'est faire l'impasse sur la dimension universelle de la mort. On veut absolument des funérailles joyeuses, mais des funérailles, ce n'est pas dresser un curriculum vitae. Des funérailles peuvent être joyeuses, mais que dans la mesure où une certaine douleur est exprimée. C'est l'expression de la douleur qui ensuite fouette notre vouloir vivre, dit Luce Desaunier. Le répertoire de Michel Faubert compte certaines chansons du 19e et du 20e siècle inspirées de morts tragiques, au chantier ou à la drave. Et ces chansons donnaient un sens à la mort de la personne qui avait besoin de prières pour gravir les échelons, note-t-il. Nommer la mort tous ensemble lui donnait une grandeur. Je vous rappelle que vous écoutez « C'est quoi notre problème avec la mort ?» un texte de Dominique Tardif, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Mourir, à quoi ça sert? En 30 ans de pratique auprès de personnes s'apprêtant à monter à bord de l'ultime autobus, la psychologue Joanne de Montigny a été en mesure d'observer une constante. Quand on est capable d'accueillir notre mort, c'est parce qu'on est satisfait de la vie qu'on a vécue, souligne-t-elle. Si on est troublé par tout ce qu'on n'a pas fait, si on a des regrets, la mort arrive toujours trop vite. Une certaine pauvreté spirituelle propre à notre époque expliquerait, selon tous les intervenants consultés pour ce dossier, notre réticence à aborder le sujet avec nos proches. Précisons cependant qu'avoir une spiritualité ne signifie pas d'appartenir à une église, mais au minimum de tenter de conjuguer ses valeurs à ses choix de vie. Croire non pas en une déité, mais à quelque chose de plus grand que soi. Il faut réenchanter la mort, plaide Stéphane Crête, en empruntant une autre formule de Yuki Vatier. En prenant en charge de mourir, la médecine a voulu élucider le mystère de la mort, mais en ne parlant que d'un processus biologique, on évacue toute la dimension mystérieuse de l'existence, d'où on vient, où on va. Un mystère auquel l'art et la création peuvent redonner sa pleine épaisseur, croit le comédien. Si le seul sens que l'on donne à la vie, c'est de consommer, il est bien évident que la perspective de sa mort puisse nous angoisser, avance Michel Faubert. C'est pour ça que je dis qu'il faut rattacher la mort à la vie. Donner un sens à la mort, c'est trouver un sens à la vie. C'est grand, la mort. C'est plein de vie dedans, chantait Félix Leclerc. Faire des choix plus libres. Mourir, à quoi ça sert? Savoir que l'on va un jour s'en aller permet en tout cas de se prévaloir du plein potentiel de notre liberté. Le sentiment de notre finitude n'a pas à nous rendre tristes ou joyeux, mais il peut orienter nos choix, fait valoir Luce Désaunier. Savoir qu'on va mourir devrait nous aider à faire des choix plus libres. Stéphane Crête a longtemps été abonné à l'application mobile WeCroak, qui envoie 5 fois par jour à ses souscripteurs des notifications leur remémorant que le nombre d'heures qui leur est imparti n'est pas infini, autrement dit, qu'ils vont un jour lever les feutres. Le slogan de l'appli? Trouvez le bonheur en contemplant votre mortalité. Il existe une manière de se rappeler qu'on va mourir qui ne soit pas tétanisante, mais qui amène davantage à la célébration. Ah, cool, je suis vivant. Comment puis-je encore mordre dans la vie, sachant que demain c'est peut-être fini? Dit Stéphane Crête. Joanne de Montigny admire les gens qui meurent. Ça m'a toujours impressionné, oui, même si, bien sûr, on va me dire qu'on n'a pas le choix de mourir, explique-t-elle. Mais pour moi, ce n'est pas une réponse. Il faut quand même habiter doucement cette mort, quand elle s'approche. Les mourants peuvent encore beaucoup nous apporter, ne serait-ce que dans leur capacité à s'abandonner à ce qui leur arrive, en nous montrant qu'ils sont capables de mourir. Elle s'interrompt. Ça prend du courage, mourir. C'était « C'est quoi notre problème avec la mort ?» un texte de Dominique Tardif, paru le 9 avril 2023 dans La Presse.
Pourquoi avoir de gros revenus ne nous rend pas meilleurs avec l'argent? Un texte de Nicolas Bérubé paru le 9 avril 2023 dans La Presse. J'ai remarqué un phénomène en matière d'épargne et d'investissement. Les gens qui ont fait de longues études, ont de gros revenus et occupent des emplois prestigieux ne sont pas meilleurs que tout le monde. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Ça m'a pris du temps parce que c'est difficile de ne pas être intimidé par des gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars par année. Dans les conversations, ces personnes utilisent souvent des expressions comme « voyage de ski en Nouvelle-Zélande »,« chalet au Mont-Sainte-Anne » et « rénovation plus coûteuse que prévu ». Elles se déplacent au volant de véhicules dont les pièces sont longues à commander et estiment que les prix des chambres d'hôtel en Europe cet été sont complètement fous. Automatiquement, mon cerveau me dit « cette personne a compris comment fonctionne l'argent. Elle en gagne, elle en dépense, elle est riche. » Pourtant, pratiquement chaque fois que j'ai l'occasion d'aller au-delà des apparences, j'en ressors avec les yeux gros comme des pièces de 2 $. J'étais persuadé d'avoir affaire à un maître Jedi de l'argent. Finalement, pas du tout. Un ami me rapportait l'autre jour une discussion qu'il avait eue avec la responsable du financement d'un important concessionnaire de véhicules de prestige à Montréal, dont je tairai l'identité. Mon ami lui a demandé de lui décrire le client problématique type qu'elle rencontrait dans son bureau. Elle a souri et lui a répondu « Tu ne me croiras pas, mais mes pires clients sont souvent des médecins. » Les médecins gagnent tellement d'argent, a-t-elle expliqué, qu'ils ne sentent pas le besoin de planifier et s'endettent massivement au gré de leurs désirs et de leurs besoins. Enfants au collège privé, restaurants chics, voyages au soleil. Leurs cartes de crédit sont parfois tellement pleines qu'il ne reste plus de place dans leurs finances pour des choses comme la location de véhicules de prestige. Dans son bureau, certains médecins ont déjà été au bord des larmes en la suppliant d'approuver leur demande de prêt, a-t-elle affirmé. Quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on peut s'offrir presque tout ce qu'on désire, c'est facile de croire qu'on est libre financièrement. C'est une illusion, bien sûr. Être libre financièrement, ça veut dire une chose, et une chose seulement, être maître de son temps. Bien des gens qui ont de gros revenus ne sont absolument pas maîtres de leur temps. Ils ont besoin de leur prochain chèque de paye avec la même urgence que la personne qui gagne 30 000 $ par année. Vous écoutez, pourquoi avoir de gros revenus ne vous rend pas meilleur avec l'argent? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 9 avril 2023 dans la presse. L'auteur financier américain Ben Carlson écrivait récemment que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent partent souvent du principe que leur réussite dans un domaine se traduira automatiquement par une réussite dans un autre domaine, comme l'investissement ou la gestion des finances. Malheureusement, ce n'est pas le cas, écrit-il. Je connais de nombreuses personnes fortunées qui sont de piètres investisseurs parce qu'elles sont trop sûres d'elles ou parce qu'elles croient que leur niveau de richesse leur garantit l'accès à des moyens secrets de gagner de l'argent qui ne sont accessibles qu'aux personnes riches ou célèbres. Un indice, il n'y a pas de secret. Une étude publiée en 2017 dans le Canadian Medical Association Journal a démontré que les médecins voulaient cesser de travailler à 60 ans en moyenne, mais qu'ils prenaient dans les faits leur retraite près d'une décennie plus tard, à 69 ans en moyenne, entre autres parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de partir avant cet âge. Lorsque notre œil voit un gros train de vie, il l'associe instantanément à la richesse. Or, un gros train de vie agit souvent comme un frein à l'enrichissement, car l'argent dépensé ne revient jamais et ne peut se multiplier pendant des décennies dans des placements financiers, placements que notre œil ne voit pas. Comme l'a récemment écrit mon ami Jean-Sébastien Pilote, auteur du blog « Le jeune retraité », le dollar placé dans des actions d'Apple il y a deux décennies a bossé dur. Il a même fait des heures supplémentaires. Assez pour me payer un millefeuille et un billet d'avion Montréal-Paris. Jean-Sébastien ne blague pas. Un dollar investi dans Apple en 2003 vaut 757 dollars aujourd'hui. Mais un dollar investi dans un produit Apple en 2003 ne vaut plus rien aujourd'hui. Je ne veux pas donner l'impression que les gens qui ont de gros revenus n'ont pas de richesse. Au contraire, les statistiques nous montrent que plus une personne gagne un gros salaire, plus sa valeur nette, soit la somme de ses actifs, moins la somme de ses dettes, est élevée. Or, cette richesse est bien souvent enfermée dans un régime de retraite. Le problème avec le fait de se fier à son régime de retraite pour s'enrichir, c'est qu'il faut attendre après l'âge de 65 ans pour en profiter. Vous êtes épuisé et voulez ralentir la cadence? Viser une carrière moins payante? Travailler à temps partiel? Sans épargne, c'est impossible. Les chiffres n'arrivent tout simplement pas. Et donc, quand le lundi matin arrive, vous n'avez pas le choix. Le bureau vous attend. En matière de richesse, il n'y a pas de raccourci. qu'on touche un gros ou un petit salaire, qu'on roule en Land Rover ou en Toyota, la seule façon de s'enrichir est d'avoir une différence entre ses revenus et ses dépenses, et d'investir cette différence pour la faire croître à long terme. Tout le reste n'est qu'apparence. Parlant d'investissement, les trois premiers mois de l'année 2023 sont déjà derrière nous. Ils nous ont notamment fait vivre l'écrasement de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et du géant Crédit Suisse en Europe. Pourtant, l'indice du S&P 500 aux États-Unis est en hausse de près de 7 % depuis le début de l'année, alors que l'indice du Nasdaq a grimpé de 16 %. La bourse de Toronto est en hausse de près de 4 % tandis que les actions internationales ont connu une croissance de près de 6 %. Ceux qui ont paniqué ont perdu. La marche à suivre, encore une fois, était de fermer les yeux, de se boucher les oreilles et de rester investi. Tellement simple, tellement difficile. C'était « Pourquoi avoir de gros revenus ne nous rend pas meilleurs avec l'argent ?» Un texte de Nicolas Bérubé paru le 9 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visez-voix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.